Excellent réveil à tous, voici le journal de Catherine Dutuc. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Pour un autre avenir, la CGT solidaire et la FSU ouvrent la rentrée sociale aujourd'hui avec un appel à faire grève et à manifester partout en France contre les suppressions d'emplois et pour des hausses de salaires. En cette période de crise, ce mot d'ordre pour un autre avenir sera-t-il entendu? Enjeu décrypté dans un instant.
En cette rentrée qui voit les plans sociaux se multiplier, le japonais Bridgestone va fermer son usine de pneus de Béthune qui emploie plus de 800 personnes. Une trahison pour le gouvernement et les élus locaux. Vous l'entendrez.
Dans ce contexte morose en France et dans le monde, l'OCDE appelle les États à ne pas relâcher leurs efforts de soutien budgétaire l'an prochain et à prendre aussi un virage vert pour l'économie.
Et puis à la une encore, Catherine, près de 10 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures en France. La stratégie du gouvernement en question.
Une différence de traitement d'un endroit à l'autre, dénonce l'opposition. Adaptation au plus près de la réalité, répond l'exécutif. La possibilité d'un vaccin et sa date de distribution, arme de campagne dans la présidentielle aux États-Unis, passe d'armes aussi entre Donald Trump et le directeur des centres de prévention et de lutte contre les maladies.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, accusation de travail forcé des Ouïghours dans l'industrie textile. Comment faire plier précisément cette industrie? Je poserai la question à Neila Jaltouni, elle est coordinatrice du collectif Éthique sur l'étiquette.
C'est le premier appel à la mobilisation de la rentrée. La CGT, Solidaire et la FSU appellent à cesser le travail et à descendre dans la rue aujourd'hui alors que la situation sanitaire est toujours incertaine et que prévalent les gestes barrières dans l'espace public. Les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits et la CGT l'assure, notamment dans son cortège parisien, la distanciation physique sera respectée ainsi que le port du masque. Mais ce ne sont pas des conditions idéales pour rassembler le plus grand nombre malgré une rentrée qui a vu se succéder les plans sociaux. Anne-Laure Chouin, bonjour, les salariés sont fatigués et les syndicats en ordre dispersé.
Oui, une mobilisation de rentrée qui s'annonce plus militante que populaire, c'est ce qu'anticipe déjà la CGT qui craint de ne pas voir affluer beaucoup de salariés dans son cortège. Des salariés dont beaucoup ont subi le chômage partiel et la perte de revenus afférente quand ça n'est pas le chômage tout court. Le pouvoir d'achat, justement, c'est sur ce thème qu'a choisi de mobiliser la centrale syndicale avec Solidaire et la FSU, les syndicats étudiants et lycéens et quelques bataillons départementaux de force ouvrière. On a beaucoup félicité les premiers de corvée, explique Philippe Martinez. Mais en cette rentrée, c'est par des plans sociaux qu'on les remercie. Dans le viseur, les entreprises qui licencient donc, mais aussi les plans de relance par filière, dont la CGT critique le manque de contrepartie. Elle souhaiterait que les syndicats aient un droit de regard sur l'utilisation qui sera faite de ces millions d'euros d'argent public. Elle fustige également les APC, ces accords de performance collective en entreprise, l'autre nom pour elle de feu, les accords de compétitivité qui se sont presque toujours soldés, selon la CGT, par des licenciements. Des critiques globalement partagées par les autres syndicats qui estiment pourtant que l'heure n'est pas au rassemblement unitaire. Trop tôt pour la CFDT qui lancera demain de son côté son action pour aller, je cite, au contact des travailleurs partout en France. Trop tôt aussi pour Force ouvrière qui réunit son comité confédéral national à la fin du mois avant de décider quelle forme prendra une éventuelle mobilisation.
Et du côté des transports, la SNCF annonce un trafic quasi normal malgré l'appel à la mobilisation de deux syndicats, Anne-Laure.
Oui, pour le secrétaire général de la CGT cheminot Laurent Brun, le moment est compliqué. 6 mois après une grève reconductible, dure, contre la réforme des retraites, quelques semaines après les vacances et quelques mois après le confinement, difficile d'inciter la base à perdre encore une journée de salaire, d'autant que la SNCF va bénéficier d'une partie des 11 milliards d'euros alloués par l'État au transport, que sa nouvelle direction semble plutôt appréciée par les syndicats. Mais les sujets qui fâchent sont encore nombreux. L'entrée en vigueur de la concurrence et le changement de statut des cheminots, les moyens qui seront réellement alloués au fret ou encore les suppressions d'emplois qui se poursuivent dans l'entreprise.
Anne-Laure Chouin sur cette rentrée sociale. Est-ce que la fièvre monte? C'est la question que vous poserez, Guillaume Erner, dès 7h40 à votre invitée Leïla de Comarmont, journaliste sociale pour le quotidien Les Échos, rejointe ensuite par Christine Hérel, professeure d'économie au CNAM. Dans un autre domaine, sous couvert de la crise sanitaire, c'est un autre modèle économique qui voit le jour au travers de 105 postes supprimés, dénonce la CGT à propos de la chaîne Top Office qui produit des meubles de bureau et des fournitures dans la galaxie Mullier. Top Office va supprimer une demi-douzaine de sites en France et se séparer donc d'un tiers de ses effectifs. Là, ce sont 863 emplois qui vont disparaître. Le japonais Bridgestone a décidé hier de fermer son usine de pneus à Béthune dans le Pas-de-Calais. Le gouvernement parle de trahison, un assassinat cynique selon Xavier Bertrand. Le président LR de la région Hauts-de-France exige que soient rapidement étudiés des scénarios alternatifs.
On a affaire à des menteurs parce qu'en novembre 2019, à Bercy au ministère, ils nous ont dit les yeux dans les yeux, non, vous savez, il y a des difficultés sur le marché du pneu, mais il n'est pas question de fermer. On est aujourd'hui en septembre 2020 et visiblement, on a eu affaire à des cyniques et à des menteurs. Il y a une possibilité aujourd'hui de changer la donne. C'est que Bridgestone renonce à son projet de fermeture et accepte de se mettre autour d'une table et de discuter d'un projet d'investissement sur ce site. Si Bridgestone investit, l'État, la région, les collectivités locales, on mettra aussi de l'argent. Mais attention, avec des garanties pour l'avenir, parce que le problème de cette usine aujourd'hui, c'est qu'on produit des petits pneus. Or, les petits pneus, ça se vend quasiment plus. Si par contre il y a un véritable investissement, cette usine va enfin devenir plus productive et elle essuiera plus toutes les critiques de la terre de la part de la direction de Bridgestone.
Xavier Bertrand, le président Les Républicains de la région Hauts-de-France. Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie, annonce ce matin qu'une réunion pourrait se tenir lundi avec les dirigeants européens de Bridgestone, les représentants du personnel et les élus locaux. La ministre veut faire pression sur le groupe japonais pour qu'il fournisse, je cite, d'abord un projet industriel avant de mettre de l'argent public sur la table. Lui n'est plus le capitaine à Matignon, mais il voit venir une tempête économique, une tempête sanitaire, peut-être une tempête sociale. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe, aujourd'hui maire du Havre, a appelé hier soir au rassemblement, au dépassement pour affronter les mois à venir. C'était lors d'un déplacement à Octeville-sur-Mer avant les prochaines sénatoriales fin septembre. De son côté, Bercy ne prévoit pas que la crise sanitaire contraigne à nouveau l'activité économique l'an prochain. 8% de croissance sur lesquelles table Bercy après la chute de 10% cette année. Le scénario d'un retour progressif à la normale et même d'un rebond des créations d'emplois est au cœur de ce budget 2021 après la destruction attendue de 800 000 postes cette année. La récession sera moins sévère finalement que ce qui avait été prévu en juin. L'OCDE prévoit une chute du PIB au niveau mondial de 4,5% au lieu des 6% initialement prévus. La situation n'en reste pas moins très incertaine car elle dépend de l'évolution de la crise sanitaire. Et l'OCDE appelle les États à ne pas relâcher leurs efforts de soutien budgétaire pour 2021. L'OCDE qui regrette aussi un manque d'ambition réelle pour verdir l'économie, Marie Vienno.
Moins de consommation, moins d'investissement, moins de production, moins d'échanges commerciaux, moins d'emplois. Laurence Boone, l'économiste en chef de l'OCDE, décrit la séquence que vivent toutes les économies du monde. Toutes, à part la Chine, vont être en récession en 2020, ce qui est historique. Historique aussi l'incertitude sur les mois à venir et les montants de pertes de richesses tels que mesurés par le PIB. Ce sera 4 000 milliards de dollars en moins si tout va mieux, 11 000 si la crise sanitaire dure. Attention, prévient l'OCDE, lors de la crise financière de 2008, c'est 8 mois après la récession que les faillites ont atteint leur point culminant et 24 mois pour le chômage. Il ne faut donc pas que les États cessent leur soutien budgétaire en 2021. Attention encore, prévient Laurence Boone, on est en train de rater une occasion unique de changer de modèle de croissance. Les gouvernements n'ont pas profité de la crise financière pour orienter la reprise vers une croissance plus propre. Et cette crise nous donne encore la possibilité de changer. Les ambitions sont très élevées. Mais à ce stade, les engagements sont très limités. 50% des soutiens pour le secteur énergétique dans les plans de relance va aux énergies fossiles. Les pays du G20 vont en effet consacrer 180 milliards de dollars pour soutenir les énergies fossiles sans aucune contrepartie ni objectif climatique contre 50 milliards pour les énergies propres a calculé l'OCDE. Le verdissement des modèles économiques est bien une priorité affichée de tous les plans de relance en cette rentrée, mais affichée surtout vient rappeler utilement l'OCDE à l'occasion de ses prévisions.
Quant à l'économie néo-zélandaise, elle a enregistré une chute record de 12,2% de son PIB durant le deuxième trimestre. La Nouvelle-Zélande entre ainsi officiellement en récession à cause de la crise provoquée par la pandémie de Covid-19.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. La France a enregistré près de 10 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures.
Tout près de son niveau record depuis le lancement de tests à grande échelle dans le pays. Par ailleurs, 46 malades du Covid sont morts à l'hôpital dans les dernières 24 heures contre 37 avant-hier. La barre des 31 000 morts a été franchie hier en France. Et pour défendre la gestion de la crise par l'exécutif, Olivier Véran, le ministre de la Santé, revient en première ligne cet après-midi avec un point presse à 17h, un point presse qui a vocation à devenir hebdomadaire pour expliquer la stratégie du gouvernement face à l'épidémie de Covid-19. L'exécutif promet une présentation claire et pédagogique, une clarté qui semble manquer ces derniers temps, Rosalie Lafarge.
L'exécutif le sait, la méfiance des Français est de plus en plus importante. Les va-et-vient, les décisions apparemment contradictoires, les différences de traitement d'un endroit à l'autre, ce n'est pas facile à comprendre pour tout le monde. Et le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, l'assume.
C'est un virus que nous continuons de découvrir, qui a une circulation qui lui est propre, qui est parfois inattendue. Et donc évidemment, on s'adapte à la situation et on continuera à le faire.
S'adapter d'abord du côté des tests. Il faut être plus efficace. L'injonction vient du président Emmanuel Macron lui-même. Le ministre de la Santé devrait aussi remettre en avant l'application Stop Covid, encore trop confidentielle. Mais contrairement aux dernières rumeurs, la priorité aux tests pour ses utilisateurs ne serait pas à l'ordre du jour. Sur le reste, il ne faut pas s'attendre à une révolution dans la stratégie du gouvernement, à en croire Gabriel Attal.
Parfois, on entend certains qui, au moment de la première vague, regrettaient finalement que les décisions soient trop prises depuis Paris et parfois en méconnaissance de la réalité de certains territoires qui aujourd'hui considèrent qu'il serait curieux de prendre des mesures après concertation avec les élus locaux pour s'adapter à la situation locale. Nous continuons à parier sur ce volet-là.
Le ministre de la Santé va normalement lui aussi insister sur ce volet-là. Après Lille, Marseille et Bordeaux, d'autres territoires connaissent une augmentation des contaminations. Olivier Véran devrait en faire la liste et ainsi préparer les esprits à de nouvelles restrictions.
Il ne représente que 13% de la population mondiale, mais un groupe de pays riches a préacheté la moitié des futures doses de vaccins contre le Covid-19, selon un rapport publié par l'ONG Oxfam. Les futurs vaccins qui sont plus que jamais un argument de campagne en vue de la présidentielle aux États-Unis. Joe Biden, le candidat démocrate, a estimé hier que le président républicain Donald Trump, candidat à sa réélection, était disqualifié pour gérer la pandémie. Quant au directeur des centres de prévention et de lutte contre les maladies, Robert Redfield, il a ajouté son grain de sel hier dans cette polémique.
Ce masque a plus de chances de me protéger contre le Covid qu'un vaccin, parce que si je ne développe pas de réponse immunitaire au vaccin, il ne me protégera pas. Ce masque le fera. Et je pense qu'un vaccin sera disponible pour que le public américain retourne à une vie normale, disons, fin du deuxième trimestre, troisième trimestre 2021.
Une information incorrecte selon le président Donald Trump.
Je crois qu'il ne réalise pas ce qu'il a dit, car c'est faux. Nous sommes prêts à distribuer un vaccin tout de suite à une large partie de notre pays, et même au-delà.
Donald Trump a moins de 2 mois maintenant de la présidentielle aux États-Unis. Le temps de ce jeudi 17 septembre, encore très ensoleillé, les températures seront comprises au meilleur de la journée entre 20 et 36 degrés, Guillaume Erner.
Merci beaucoup Catherine Dutu.